Déambulation.
Symbolise le mieux. Parce que plus que leur vol, où chacun peut aisément voir une image de liberté, ce qui m'intéresse, c'est le moment où le vol change de nature, le moment où l'oiseau se pose. J'ai remarqué que pouvant se poser où bon lui semble, l'oiseau se pose toujours là où il doit. Ainsi, tel des oiseaux, vous êtes venus vous poser ici pour obtenir une réponse à la question. Question du jour, préoccupation du moment, épreuve intime, un thème qui vous touche, qui vous implique. Eh bien, quand vous la tenez, la question, ça y est, vous la voyez apparaître, vous en avez une question là ?
Oui.
Question qui ne finit ni par oui ni par non. Comment, quand, pourquoi ? Un petit exemple. Ça peut aider? Un exemple pour jeune Yin. Quelle est la bonne attitude à adopter pour réussir à avoir toujours des bonnes relations avec mes congénères? Ça vous parle, ça? Bon. Un exemple pour jeune. Vous pouvez aider aussi là, hein, parce que vous rigolez, mais un exemple. Vous n'avez pas d'exemple? Un exemple, Paul, un exemple pour.
Oui, mais là je me dessine.
Bah oui, un exemple.
Un exemple pour jeune Yin. Ok, là on ne le fait pas, alors tout bas.
Pierre Faure, bonjour. Vous êtes, semble-t-il, un des spécialistes en France du yiking. Et en quelques mots, qu'est-ce que le yiking?
Alors, le yiking est donc, un ouvrage qui accompagne la culture chinoise depuis quasiment ses origines, qui est donc un ouvrage fait de 64 figures qu'on appelle les hexagrammes, qui sont accompagnés d'un texte. Qui s'est rédigé entre grosso modo le 8e et le 3e siècle avant Jésus-Christ et qui a donc accompagné les différents stades de la culture chinoise, qui a été intégré au corpus de ce qu'on appelle les classiques en Chine, qui a été étudié, commenté par les lettrés sous l'époque des Song, etc. et qui a évidemment un peu disparu au moment de la révolution culturelle, mais à qui il est probablement promis un grand avenir. Il a déjà traversé pas mal d'époques, et puis il a quand même traversé les océans, puisqu'il se retrouve maintenant en Occident, grâce aux efforts de Carl Gustav Jung, d'ailleurs, qui l'a vraiment fait connaître en Occident, en préfaçant la traduction la plus connue, celle de Richard Wilhelm. Et c'est un ouvrage qui est extrêmement souple et adaptable, et qui, bien sûr, alors le texte est tout à fait emprunt de la culture chinoise, c'est-à-dire de toute la symbolique de la Chine de l'Antiquité. On y trouve la référence à des objets, à des pratiques, à des rituels, à des personnages qui sont tout à fait reconnaissables, datés, et que évidemment il faut transposer, si on veut l'utiliser aujourd'hui chez nous, il faut le transposer dans une symbolique qui nous parle à nous. Mais c'est tout à fait possible, il faut simplement décrypter quelles sont les significations de ces signes-là et les adapter de manière correcte à ce que nous vivons par chez nous. Quoi.
À qui s'adresse le yiking et pourquoi ?
Ça peut s'adresser à tout le monde. Ben, si vous voulez, ça a l'avantage d'être un vocabulaire très simple. Il y a deux traits, un trait yang, un trait continu qui est le trait yang, un trait discontinu qui est le trait yin. Je veux dire, on ne peut pas faire plus simple comme langage, c'est vraiment du binaire basique. Mais évidemment, ces deux traits sont organisés sur six niveaux. C'est pour ça qu'on les appelle les hexagrammes. Donc les hexagrammes mélangent de traits yin et yang. Et on peut en faire 2 puissance 6, 64, pas un de plus. Donc c'est un vocabulaire finalement qui est assez simple. Disons que sa partie purement graphique ou arithmétique n'est pas très compliquée à comprendre. Ce qu'il est peut-être un peu plus, c'est l'aspect, je dirais, littéraire de son texte, hein, parce que c'est quand même, tout ça, c'est du chinois classique, hein, du chinois ancien. Donc, évidemment, il n'y a pas la syntaxe du mandarin actuel. Donc, il y a parfois des choses qui sont un petit peu compliquées, d'autant plus qu'on n'a pas forcément le sens de tous les rituels ou de ces choses-là. Mais enfin, avec de la pratique, n'importe qui, même assez tôt, peut arriver à, je dirais, construire des sens tout à fait valables à partir avec cet outil-là.
Les oracles culinaires de Monsieur Hick, à quel niveau vous situez votre participation ?
Oh ben, moi j'ai simplement aidé Christophe à mettre au point le texte au cours du spectacle. Donc il fait faire un tirage à un groupe de gens autour de cette magnifique table qu'il a construite. Et évidemment, il fait un commentaire sur le résultat du tirage. Donc moi, je vais simplement aider à mettre au point le texte pour chaque hexagramme, de manière à ce qu'il ait évidemment des repères fiables pour interpréter ce qui est sorti.
Ça voudrait dire que le Hiking se prête à des interprétations illimitées ?
Alors là, il faut être un peu prudent avec ça. C'est-à-dire que, je fais des formations, j'ai donc des étudiants, et dans les différents ateliers que je propose, je demande toujours aux gens de faire la différence, enfin de faire une séparation, une cloison entre analyse et interprétation. Parce que si on se lance à l'aveugle dans une lecture, même avec le meilleur des bouquins, le problème c'est que l'intuition va tomber un peu sur les mots français qui nous arrangent ou des choses comme ça, voyez. Alors, là, on peut parer à ce genre d'inconvénient si on fait une analyse un petit peu méthodique du tirage lui-même. Souvent, je dis à mes étudiants, oubliez la question, oubliez ce que vous voulez savoir et essayons déjà de comprendre le processus décrit par le tirage. Voilà, parce que les tirages sont pour moi des descriptions de situations qui s'enracinent toujours dans le présent. Voilà, donc si on arrive à comprendre la situation présente, eh bien, on a déjà fait un grand pas. Alors après, évidemment, on revient au questionnement qu'on avait au départ et on essaye de faire le lien entre ce qu'on a déduit de l'analyse et puis la situation elle-même. Voilà. Et là, quand on met ce genre de garde-fou, eh bien, notre intuition est beaucoup mieux, je dirais, aimantée, beaucoup mieux guidée et les résultats sont beaucoup plus intéressants.
Quelle est la part de rationalité qu'on pourrait trouver dans le Hiking ?
Oh, mais il y en a une grande part. Vous me donnez l'occasion d'éclaircir un point délicat qui concerne le terme de divination, bien sûr. Puisque j'ai souvent cette formule que j'ai encore utilisée dans cette conférence, qui est que pour nous, divination se situe quelque part entre devinette et divagation. Et que donc, pour dire que ce n'est pas quelque chose considéré de manière très comme sérieux. Pour les Chinois, c'est extrêmement différent. La divination est au départ de leur culture. Il ne faudrait pas parler de divination, il faudrait parler de sémiologie chez les Chinois. C'est-à-dire le fait qu'on observait tout ce qui était possible, tout ce qui était observable. On observait d'abord les traces des lignes sur les ossements après les sacrifices. Et puis on a procédé soi-même à du travail sur les ossements, sur des os, sur des omoplates, pour faire apparaître des craquelures et des signes, etc. On a étudié, classé, etc., tous ces signes, et la divination a beaucoup évolué. On est passé de ce qu'on appelle l'ostéomancie, la divination sur os, à la chéloniomancie, c'est-à-dire sur carapace de tortue. Puis, après, on s'est mis à utiliser toute une science de nombres, toute une numérologie, ce qu'on a appelé l'achilléomancie, donc on compte avec des baguettes d'achillée. Et donc, il y a toute une évolution qui s'est faite, mais qui a pour but l'étude rationnelle des choses. Voilà. Et il y a un sinologue, donc, extrêmement intéressant qui s'appelle Monsieur Van der Merch, qui a inventé cette expression de, comment il appelle ça, le rationalisme divinatoire. Vous voyez, ce qui pour nous est un oxymore, un rationalisme divinatoire, c'est vraiment très paradoxal pour nous. Eh bien, pas pour un Chinois, enfin du moins pas pour un Chinois de l'Antiquité, l'idée que ce que nous appelons divination correspond en fait à une observation des choses qui nous permet de mieux comprendre le monde qui nous entoure, de mieux nous situer dans le monde qui nous entoure et d'avoir des comportements beaucoup plus adaptés parce que beaucoup mieux renseignés sur les situations, sur la manière dont les choses se passent.
Le viking donc s'adapte aussi aux cultures à travers le monde, dans sa manière de fonctionner donc.
Le problème c'est que le viking est à un moment, je dirais, un petit peu délicat de son histoire. Il a été évacué par la révolution culturelle, en même temps que toutes les vieilleries confucéennes et j'en passe. Et il a donc été, il faut quand même le dire, sauvegardé par l'intérêt qui portaient les Occidentaux. Chose que les Chinois n'ont pas encore reconnue, à mon avis. Et il est donc à un moment où, grâce, donc, je le disais, à Jung, il est devenu une sorte de... Enfin, il participe de la culture mondiale. Voilà. Donc, le livre de Wilhelm a été traduit dans toutes les langues. Il est connu en Amérique du Sud, dans tous les pays d'Europe, aux États-Unis, en Asie, je ne sais pas trop où il en est. Et donc, il a acquis le statut d'ouvrage universel. Alors, le problème qui se pose maintenant, c'est que, vu son aura divinatoire, il y a des tas de gens qui font n'importe quoi avec, qui écrivent du viking, qui écrivent des bouquins qu'ils appellent le viking, plus exactement, en se basant sur je ne sais quoi, sur des mélanges d'intuitions et de traductions parfois bizarres. Et cette permissivité, je dirais, qui règne autour du texte, est assez gênante, quoi, parce que je reste persuadé que le writing a un sens. Vous voyez, les textes ont un sens qui est précis, qui, alors, vu le flou de la syntaxe antique, et puis vu le procédé lui-même du writing, c'est-à-dire qu'on interroge, mais on va, comme dit dans le writing lui-même, on va s'approcher soi-même d'une éventuelle compréhension de la situation. Donc, il y a un travail à faire par soi-même pour accéder au sens. Alors, des bouquins qui vous disent que tout est fait, que voilà, ça veut vraiment dire ça, il ne faut pas aller non plus jusqu'à ces extrêmes-là. Mais, voyez, on est entre deux eaux. On est entre ceux qui racontent un peu n'importe quoi et ceux qui veulent trop fermer le sens dans un truc définitif.
Vous-même avez traduit des ouvrages concernant le viking.
J'ai évidemment participé à des travaux avec un groupe de sinologues. Et puis, donc, j'ai co-écrit cette version-là qui est parue en 2002, qui s'appelle « Yixing, le livre des changements » chez Albin Michel, dont j'étais responsable surtout de la partie commentaire. À l'époque, bon, je donnais mon avis sur certaines traductions, bien sûr, mais ce n'était pas moi qui avais la main sur le texte traduit. Depuis, j'ai fait un autre livre qui s'appelle Le Yixing par lui-même, qui est paru aux éditions chez Alphée, et dans lequel j'ai donc là, pour le coup, réellement traduit des textes qui sont plus des parties. Le Yixing, c'est le texte des hexagrammes plus des commentaires, qu'on appelle les dizelles, qui font partie du Yixing officiellement. Et donc moi, je me suis plus axé sur la traduction de certains de ces commentaires, le texte qu'on appelle les grandes images, qui maintenant est intégré dans tous les vikings, et puis d'autres textes, la 7e aile, la 10e aile, enfin voilà. Et j'ai apporté dans ce livre aussi des éléments sur les personnages, sur des ingrédients qui permettent d'aborder, de comprendre le livre, voilà. Pour l'instant, j'en suis là dans mes travaux, qui continuent, bien sûr.
Qu'est-ce qui a éveillé en vous cet intérêt pour le hiking?
Vous savez, la vie est affaire de rencontres. Moi, j'ai rencontré cet ouvrage, je devais avoir, je crois, 21 ou 22 ans. Et 22 ans, je crois. Et c'est l'époque où venait de paraître en français la traduction par Étienne Perrault de l'ouvrage de Richard Wilhelm, qui est donc celui qui a réellement fait connaître le hiking en Occident. Et je suis arrivé chez des gens que je ne connaissais pas, avec un ami, et j'étais sous un arbre, en train de deviser, et il y a une personne qui avait l'air de connaître un petit peu mieux, qui expliquait quelques hexagrammes. Et donc ça m'a tout de suite fasciné, j'ai trouvé ça tout à fait passionnant. Moi j'étais en rupture de banc de la, je vais faire large, de la civilisation christiano-occidentale, tout ce qu'on avait pu m'apprendre, tout ce que j'avais pu apprendre en faculté. Je venais de terminer une licence de lettres et j'étais pas satisfait par tout ça. Et cette appréhension de l'univers comme ça, simplement avec un trait plein, un trait continu, un trait discontinu, avec des textes attachés, ça m'a immédiatement fasciné. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce système qui résume le sens des choses, le sens du cosmos en quelques figures comme ça. Mais je me suis précipité chez le premier libraire venu pour me procurer l'ouvrage, que j'ai lu plusieurs fois d'un bout à l'autre, et voilà, c'est comme ça que l'affaire a commencé.
En ce qui concerne chaque hexagramme a un mot qui en ressort, par exemple, j'ai vu le mot libération.
C'est le titre d'un hexagramme. Chaque hexagramme a un nom, si vous voulez, à une sentence globale, à ce qu'on appelle le jugement. Il y a un texte basé sur les séries de trois traits qu'on appelle les trigrammes, les huit trigrammes. Donc il y a ce texte qui est la grande image, qui est basé sur la nature, sur les idées de force naturelle. Puis après, il y a l'histoire de chaque hexagramme. Chaque hexagramme, c'est une histoire qui se déroule de bas en haut et il y a une hiérarchie entre les différents traits. Vous voyez, il y a une entrée, un déploiement, un accomplissement et puis un bilan, une fin. Voilà, chaque hexagramme, c'est ça.
Ces mots, est-ce qu'ils ont la même importance dans une culture occidentale par rapport à la culture chinoise? Est-ce que les mots sont similaires? Est-ce qu'ils ont le même sens?
Alors, c'est une bonne question. Je dirais que les configurations qu'ils décrivent sont universelles. Les mots, les noms qu'on donne aux hexagrammes, ça c'est plus délicat, parce que vous savez, un caractère chinois, c'est beaucoup plus vaste qu'un seul mot français. Et on a toujours cette difficulté pour traduire, c'est qu'on a l'impression qu'il nous faudrait trois ou quatre mots ou une périphrase pour arriver à rendre compte des différentes connotations d'un caractère. Donc c'est tout le temps délicat et c'est tout le temps un choix. On est encore là entre deux eaux, entre le fait de faire simple, de toucher quelque chose qui est vraiment important de l'hexagramme, et en même temps de pas laisser de côté trop de choses, ce que j'appelais ces connotations. Vous voyez. Donc c'est un exercice délicat, ça c'est sûr. Traduction du chinois est rarement une science exacte, enfin du chinois ancien du moins.
Est-ce que le hiking est plus qu'un jeu ?
C'est plus qu'un jeu, bien sûr. C'est plus qu'un jeu parce que ça concerne le sens la compréhension, le sens que nous pouvons trouver dans les situations que nous traversons. Donc en ce sens-là, c'est une affaire sérieuse, bien sûr. Mais l'aspect jeu n'est pas à dédaigner, parce que c'est vrai que dans les années 70, on entendait cette expression « on va jouer au hiking ». Et je crois que cet aspect léger-là n'est pas à négliger, pour une raison très simple, c'est que qu'est-ce qu'on fait quand on fait rouler six fois ces trois pièces? Eh bien, on a l'impression qu'effectivement, c'est comme quand on jette des dés, et on fait intervenir ce que nous appelons le hasard. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe que nous lâchons le contrôle que nous exerçons, que la conscience exerce sur le sens que nous accordons aux choses. Comme si on acceptait de lâcher un peu de lest et de faire intervenir ce petit grain de sable qu'on appelle le hasard, mais qui du coup va permettre, de relire les choses, de percevoir les choses d'une autre manière. je dis tout le temps, de faire apparaître les lignes de force. Voyez, mais ça, c'est justement parce qu'on a, lâché du lest, on s'est dit, allez, faisons confiance à quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne contrôle pas. En fait, bien évidemment, on comprend très bien, Jung a très bien expliqué ça, qu'il y a une sorte, je ne dirais pas une projection psychique, mais enfin, qu'il y a des informations que nous avons, mais que nous ne savons pas forcément que nous les avons. Et par le fait de faire intervenir cet aspect un peu ludique, comme ça, eh bien, il y a des choses qui apparaissent, justement, et qui peuvent, du coup, rentrer dans notre champ de perception, nous aider à comprendre les choses peut-être un peu mieux.
Localement, on va dire. Et puis aussi, c'était le prétexte à faire venir Pierre Faure. Et tu vas développer plus de choses autour du livre. Parce que souvent, les contextes, c'est des contextes de festival. Et que c'est la forme de spectacle qui est la plus mise en avant. Et que là, c'était l'occasion de mettre le livre aussi, et l'auteur, toi, le traducteur, et de mettre vraiment l'écrit en avant, quoi. Et du coup, le contexte de médiathèque, il s'y prête bien, évidemment, pour ça.
C'est un spectacle de la compagnie L'Éveilleur, les oracles culinaires de Monsieur Hic, pour lequel j'ai fait la musique. Il s'agit d'un ressort forain. Bien souvent, la musique, le spectacle se joue, je ne suis pas là, c'est-à-dire que j'ai préparé les choses, et c'est donc le comédien Christophe Guetta qui les envoie. Mais là, pour cette session, je suis venu les jouer en direct. Monsieur Hic, c'est un tirage de Yiking. Donc, le Yiking, c'est un vrai tirage, et c'est-à-dire qu'il y a 6 fois un tirage. Chaque tirage peut être Yin naissant, Yin mutant, Yang naissant, Yang mutant. Donc il y a 4 possibilités. On reproduit ça 6 fois. Donc il faut 24 sons, séquences sonores, on va dire différentes. Et tout ça se combine et pourrait donner 4096 compositions différentes. Donc au début du projet, Christophe, on s'est dit qu'on n'allait pas faire 4096 musiques, mais plutôt jouer sur cette forme aléatoire. En plus, dans la musique, le Yiking a été utilisé par d'autres, par John Cage en particulier, qui utilisait le Yiking justement pour ses vertus de hasard, et donc pour créer des compositions comme ça, aléatoires. Donc c'est un peu le principe du Yiking qu'on a utilisé. À chaque tirage correspond un son, selon le moment du tirage. C'est le premier, le deuxième, le troisième, quatrième, cinquième, sixième. Donc yin, yang, naissant, mutant. Et toutes ces séquences sonores sont faites pour pouvoir s'agencer entre elles et donner à chaque fois une composition différente, un yin, selon les hexagrammes qui ont été tirés. Donc le gros travail au départ, ça a été de déterminer qu'est-ce qui pouvait être un son yin ou un son yang, qu'est-ce qui pouvait être naissant ou mutant dans ces sons. Donc chaque séquence est, on va dire, une couleur sonore, un son qui évolue aussi, s'il est naissant ou mutant. Et tout ça, sur la durée du tirage, donne cette composition unique à chaque fois. Je pense que c'est très libre, mais en tous les cas, on s'est mis d'accord avec Christophe. Lui entendait des choses plutôt yin, plutôt yang. Voilà, dans cette famille de sons que j'ai proposé, puisque il y a plusieurs sets, mais là, le set qu'on utilise est plutôt issu de séquences instrumentales que j'ai retravaillées, puisque moi, je suis plutôt musicien électroacoustique, mais donc des modes de jeu qui sont faits principalement au violoncelle et à la guitare. Guitare un peu spéciale, 12 cordes microtonales. Et bon, il y a aussi quelques autres sons, mais c'est la majorité qui donne comme ça cette espèce d'unité instrumentale. Et dans ces modes de jeu, on a déterminé des choses que nous, on trouvait plutôt yin, donc une énergie plutôt du jour, ou plutôt yang, je veux dire, une énergie du jour, ou plutôt yin, qui sont plutôt méditatives, et on laisse les choses venir. Et après, il y a les yang naissant, jeune yang ou vieillissant qui va devenir un yin. Donc voilà, trouver en tous les cas un terrain d'accord qu'à nous ça nous parle.
Et donc ça rejoint, vous parliez de ligne à l'instant, est-ce que ça rejoint un peu, comment on appelle ces figures justement qui sont présentes sur cette table?
Ah, les hexagrammes.
Voilà, les hexagrammes qui sont des successions de lignes plus ou moins courtes, plus ou moins longue, et je voulais savoir, est-ce que vous avez établi un alphabet de 64 sons, par exemple, ou sonorités?
Ah, pour ce projet?
Oui.
Parce que là, on parlait de façon un peu générale. Bah, pour ce projet, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on a établi des yin, des yang, mutants, naissants, qui correspondent à chaque moment du tirage. Le premier qui tire, c'est l'entrée, et puis bon, il y a le ministre, l'empereur, etc. Enfin, voilà. Pour chacun de ces moments, on a 4 sons. Donc ça a été établi. Et c'est le mélange, le mixage de ces 4 sons dans l'espace qui crée un des hexagrammes. Mais en fait, là, il y en a 64 parce qu'on ne tient pas compte des mutants. Mais si on tenait compte des mutants, il y en a 64 fois 64. Donc 4096 possibilités de mélange. Voilà. Mais effectivement, à chaque son, à chaque hexagramme, va correspondre une composition un son, si on peut l'appeler comme ça, même si c'est une séquence hein, qui dure 8 minutes à peu près, unique, avec un pot commun de son. Voilà. Mais c'est quelque chose qui, dans la musique aléatoire, voilà, c'est pratiqué. Je parlais de John Cage tout à l'heure, mais évidemment il y en a d'autres où l'instrumentiste est libre de jouer ça ou ça, ou alors il y a des règles, s'il a joué ça avant, alors il n'a plus que trois possibilités, etc. Voilà, John Cage a travaillé beaucoup pour ses compositions avec le geeking qui lui donnait qu'est-ce qu'il y a. Il va y avoir après ce qu'on appelle la musique aléatoire, faire rentrer le hasard dans la musique de façon consciente.
La brume monte haut dans le ciel, enfle, s'élève toujours. La pression augmente et demande des options. Oui. Trop, c'est trop. Alliance périlleuse de la force et de la facilité, comme un fleuve qui aurait trop gonflé et menace de rompre ses lignes. Il y a risque d'emportement de paroles outrancières. Mais... T'es obligé d'être agressif dans ce cas-là. Ah, ça peut bien se passer. Pour éviter d'être dépassé par le trop-plein d'émotions, too much emotion. Il faut des paroles claires, des gestes déterminés, des décisions nettes. Mais aussi du doigté. De la recherche, de l'intelligence. Ouvrez clairement le passage, ici. Décidez, la pression retombera et l'horizon s'éclaircira. La résolution.
Là, c'est vraiment intime, très très intime quoi. C'est assis simplement avec ce personnage au milieu, la musique, la façon dont on est accueilli aussi par Angèle. Et tout ça, c'est un peu mystérieux. Enfin, ça fait un peu penser à ce que je pense qu'ils veulent représenter les cabarets au début du siècle où il y avait un peu des phénomènes extraordinaires, voilà. Donc on retrouve cette ambiance-là. Le travail que fait Christophe, c'est souvent très intime. Il est, je ne sais pas si vous aviez vu son laveur de main aussi. Donc c'est toujours un rapport qui n'est pas du tout un rapport spectaculaire en fait, où il y a une salle, où on est en face d'un public. Il entretient toujours un rapport vraiment très particulier avec les personnes, et souvent à une personne. Bon là c'est six. Et du coup, c'est pas du tout le spectacle comme on imagine. Et là, il pourrait faire la même chose. On pourrait dire, il pourrait partir dans les villages et ça devient autre chose, quoi. C'est pas simplement un spectacle, mais c'est du fait de l'implication des gens, quoi, qui demande aussi à ce que les gens se découvrent un petit peu quand même. Quoi.
Aussi que les choses puissent durer. On peut essayer de rapprocher un peu. dessus, tu as choisi. Et c'est ce qu'il dit ici. Tonnerre vent. Donc là, on a changé le grammaire. Tonnerre, c'est là et le vent, c'est là-dessus. Et on dit Constance, l'homme de bien, se tient droit, sans changement dans son orientation. Je tiens la table, je me suis déboussolé par les remous. Et je suis la direction que j'ai décidée. J'avais opéré.
Moi, j'ai beaucoup apprécié être accueillie par cette dame vêtue d'indigo et qu'elle nous cuisine notre mot. Ça m'a beaucoup plu. Et je trouve que le tirage a donné quelque chose de signifiant, même si on était des personnes différentes qui ne se connaissaient pas à faire le tirage. Donc c'est assez étonnant, assez curieux dans le spectacle. Donc, enfin, le processus ne fonctionne que si on y met quelque chose. Donc c'est sûr que ça dépasse un peu le jeu de regarder en spectateur passif. On est un peu plus impliqué. Du coup, ça fonctionne bien. Je trouve que ça fonctionne bien, ouais. J'utilise le yiking déjà. Mais je n'avais pas pensé, en fait, en venant ici, que j'allais tirer mon propre yiking. Enfin, notre propre à nous six. Mais oui, moi j'aime bien le yiking.
Non, c'est pas très intéressant hein, ce que je vais dire, mais moi j'aime bien ce genre de choses de divinatoire où des fois t'as une question et que ça te permet d'aller dans un sens. Au début j'étais super réfractaire à ce genre de truc parce que je trouvais ça, je me suis dit non mais c'est l'envie de la magie et tout, et en fait non, pas du tout. Et j'ai une copine qui aime bien le tarot, le yiking, des trucs comme ça. Et c'est vrai que des fois, quand on a du mal à trier dans les pensées, c'est super bien. Et là, en l'occurrence, le tirage, il était parfait pour moi par rapport à la question que je me posais. Il était vraiment bien.
Beaucoup de mystères pendant tout ce moment-là. Et j'ai été saisie par la beauté dans l'ombre, des couleurs. Rien que pour ça, c'était vachement bien, mais tout est très mystérieux. Et les interrogations sont encore là, mais j'ai envie d'en savoir plus sur le yiking. Surtout à la fin, quand on a pu dialoguer avec M. Faure, voilà. Qui apportait des petites bribes d'informations, mais toujours des esquisses. Hein, on est très loin de l'exposé construit. Ça laisse beaucoup de place à notre imagination, à notre. Voilà. C'est ce qui m'a plu aussi.
Déambulation.